Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er. Et nous allons lire encore une fois les versets 1 à 8. Apocalypse, chapitre 1, les versets 1 à 8. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Nous avons donc commencé notre étude de ce livre de l'Apocalypse et simplement pour rappel, nous avons vu dans le prologue que ce livre utilise beaucoup de symboles qu'il faut lire ce livre en tenant compte de cette réalité, que ce livre est une révélation que Dieu fait au sujet de l'histoire, mais aussi au sujet du Seigneur Jésus-Christ, que c'est une lettre historique, donc il nous faut la comprendre comme les croyants du premier siècle pouvaient la comprendre. C'est la parole de Dieu, le témoignage de Dieu, donc elle peut être comparée avec ce que les autres livres que nous avons dans la Bible disent, que c'est aussi une bénédiction pour le peuple de Dieu, pour l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis nous avons vu les quatre personnages principaux, bien sûr il y en a d'autres qui vont arriver, mais les quatre personnages principaux, nous avons vu celui qui rédige ce livre, c'est-à-dire l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait, qui, même s'il est avancé en âge, ne cesse de grandir, ne cesse d'être émerveillé devant la révélation que Dieu fait. Nous avons vu les églises, les croyants en Asie, les sept églises qui sont mentionnées, mais qui sont d'une part des églises bien réelles, mais aussi, comme le chiffre 7 l'indique, le symbole de l'Église en entier, puisque le 7 indique quelque chose qui est complet, qui est total. Nous avons aussi vu ensuite l'auteur de ce livre, qui est Dieu lui-même, dans les trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Et nous avons dit qu'il y a un quatrième personnage qui n'est pas mentionné ici, mais qui est dans l'arrière-plan, et qui est l'empereur romain, l'empereur en particulier, l'empereur Domitien. Et nous avons vu que la prééminence déjà est donnée au Seigneur Jésus-Christ. Quand nous avons vu les auteurs de cette lettre, le Seigneur est cité en troisième, et il dit au verset 5 de la part de Jésus-Christ, et il nous donne trois descriptifs du Seigneur Jésus-Christ. Il est le premier-né des morts. Il a remporté la victoire sur la mort. Il est le premier-né de cette nouvelle création qui implique qu'il y aura des seconds-nés, des troisièmes-nés, des quatrièmes-nés, etc. Que toute l'Église qui est son corps le suivra dans, dans la gloire. Il est le témoin fidèle. Pardon, j'ai sauté. Mais il est le témoin fidèle, c'est-à-dire que c'est celui qui révèle le Père, qui révèle cette grâce que Dieu manifeste envers ce peuple qu'il a choisi depuis toujours. Il est aussi le prince des rois de la terre. Il règne sur l'histoire. Il dirige l'histoire, il contrôle l'histoire et il domine sur le monde entier. Tout pouvoir lui a été donné sur la terre et dans les cieux. Et il dirige toutes choses. Et après cette description du Fils, nous avons ce cantique qui s'élève vers la deuxième partie du verset 5. « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. » Et nous avons déjà dit que nous allons trouver dans le livre de l'Apocalypse plusieurs cantiques qui viendront comme cela s'élever, et chanter, magnifier la gloire et la louange de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces cantiques vont progresser. Nous avons ce premier ici que nous allons voir, mais par exemple, au chapitre 5, nous avons un autre cantique. C'est intéressant que c'est celui qui est à l'origine du cantique que nous venons de chanter, à l'agneau sur son trône. Et ici, au chapitre 5, nous avons au verset 9 et 10, et puis ensuite au verset 12, « Il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Et puis ensuite, au verset 12, il disait d'une voix forte, « L'agneau a été immolé, et digne, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et cette louange se passe au ciel, et le sujet de cette louange, bien sûr, est le Seigneur Jésus-Christ, et cela doit nous amener à nous poser, à soulever un point, à réaliser le point suivant. La véritable adoration est celle qui est centrée sur le Seigneur Jésus-Christ et sur la révélation que Dieu nous donne du Seigneur Jésus-Christ, de son œuvre, de ce qu'il a accompli. Est-ce que c'est ce qu'on nous trouve aujourd'hui? Est-ce que c'est ce qu'on entend aujourd'hui? Et quelle est la réponse, quelle est notre réponse à la révélation que Dieu nous fait du Seigneur Jésus-Christ et de son œuvre? Est-ce que, comme au ciel, nous le louons? Nous allons le faire, et nous allons le faire de manière parfaite au ciel. Mais est-ce que nous le faisons déjà ici-bas? Nous avons donc ici, en Apocalypse chapitre 1, verset 5, la deuxième partie du verset 5 jusqu'au verset 7, le premier cantique qui est déjà un cantique de louange au Seigneur Jésus-Christ. Et je ne sais pas, mais j'espère que vous avez vu qu'il y a trois parties dans ce cantique. Et ces parties sont calquées sur la révélation que nous avons vue concernant le Père qui est, qui était et qui vient. Et ici, le cantique nous dit « À celui qui nous aime, au présent. » Certaines versions ont au passé, peut-être pour rappeler des versets comme Galates 2, 20, « Le Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Mais ici, il s'agit bien du présent. « À celui qui nous aime, le présent. » Ensuite, le passé, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et puis ensuite, il y a l'avenir. Verset 7, « Voici, il vient sur les nuées. » Mais ce qui caractérise le Seigneur Jésus au début de ce cantique, c'est son amour. C'est le deuxième mot sur la feuille. À celui qui nous aime. Et c'est une merveilleuse réalité ce que la Bible nous déclare aujourd'hui. L'amour du Seigneur Jésus-Christ ne se limite pas au passé. Trop souvent, on peut venir et se concentrer sur l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie, qui est effectivement la plus grande manifestation de son amour. Il n'y a pas plus grande preuve de l'amour que de donner sa vie pour son peuple. Mais Jean veut souligner la réalité de l'amour présent du Seigneur Jésus-Christ, à celui qui nous aime. Ce n'est pas non plus un amour qui est réservé à l'avenir, quand Christ viendra dans la gloire chercher son épouse et la prendra avec lui pour être toujours dans sa présence. Non, celui qui est le témoin fidèle, qui est le premier-né des morts, qui est le prince des rois de la terre, il aime son peuple, il aime son Église aujourd'hui. Et Jean veut que son Église, cette Église qui se prépare à vivre des temps difficiles, soit consciente de cette réalité, que le Seigneur aime son peuple et il l'aime aujourd'hui. Ça nous amène à nous poser nous-mêmes la question, est-ce que nous connaissons l'amour du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous savons que si nous lui appartenons, il nous aime? Non seulement qu'il nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, mais qu'aujourd'hui, il nous aime. Dans sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul écrit cette prière au chapitre 3 et le verset 14 à 19. Il écrit ceci, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'âme intérieure, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Et ce matin, je voudrais que nous regardions à deux de ces dimensions, deux de ces mesures, la largeur et la longueur. Les deux autres, Dieu voulant, nous les verrons la prochaine fois. Donc tout d'abord, premier point, la largeur. C'est le troisième mot sur la feuille, la largeur de l'amour de Jésus-Christ. Et plusieurs passages dans l'Apocalypse décrivent cette largeur de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons lu ce passage en chapitre 5 et les versets 9. « Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. » Verset 11, « Je regardais et j'entendais la voix de beaucoup d'anges autour des trônes, du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Une foule innombrable devant le trône de l'agneau. » Quand nous serons dans la gloire, si nous appartenons, si nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ, nous verrons cette réalité de nos propres yeux. Mais c'est vrai que ici-bas, nous pouvons être découragés par plusieurs, pour plusieurs raisons. Quand nous voyons le petit nombre que nous sommes, quand nous voyons le monde autour de nous et ses décisions qui sont contraires, qui sont contraires à la révélation que Dieu nous donne, quand nous voyons arriver la persécution comme les églises en Asie auxquelles Jean s'adresse, quand nous considérons ces choses, nous pouvons être découragés, mais lorsque nous considérons l'amour du Seigneur Jésus pour son peuple, nous reprenons courage parce que nous réalisons qu'il aime un peuple de toute langue, de toute race, quatrième mot sur la feuille, de toute race, et nous en faisons partie. Nous ne sommes pas seuls. Il y a dans le monde, il y a sur le continent, dans chaque pays, des hommes, des femmes qui se retrouvent pour louer le Seigneur Jésus-Christ, pour remercier le Père de nous avoir donné son Fils, de nous avoir, d'être venu dans ce monde accomplir un si grand salut. Nous le mentionnons régulièrement dans nos prières. Nous pensons à ceux qui se sont réunis avant nous, à ceux qui se réunissent en même temps que nous, à ceux qui se réuniront plus tard pour louer le Seigneur. À chaque moment, il y a des membres du peuple de Dieu qui louent le Seigneur Jésus-Christ. Quand une partie du globe est endormie, c'est une autre partie du globe qui est réveillée et qui loue le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons le privilège d'être les membres de cette nation sainte, de ce peuple choisi, de cette multitude qui un jour se tiendra devant le trône de Dieu et de ce peuple qui passera l'éternité dans la présence de l'agneau qui prendra plaisir en lui. Et quand Jean écrit cette lettre, et quand ce chant s'élève, il veut nous rappeler à nous, à l'Église, cette réalité, à celui qui nous aime, qui aime un peuple de toute nation, de toute langue, de toute tribu. Oui, les nouvelles venant de Rome n'étaient pas rassurantes. L'empereur Domitien était sur le point d'amener la persécution dans cette partie du monde. Nous aussi, nous ne sommes peut-être pas persécutés comme au premier siècle, mais le monde autour de nous manifeste de plus en plus sa haine contre Dieu, contre le Créateur, contre le Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons des fanatiques religieux qui sèment la terreur, qui proclament le mensonge. L'Église peut être découragée par le petit nombre, par le fait que nous semblons avoir un faible impact sur cette génération. Nos circonstances personnelles peuvent être difficiles, peut-être même écrasantes. Mais quand on considère la largeur de l'amour de Jésus, nous réalisons que nous faisons partie d'un peuple innombrable, d'un peuple qui couvre toute la surface de ce globe, cinquième mot sur la feuille. Pierre le décrira dans sa première lettre, dans sa première lettre au chapitre 2 et au verset 9 et 10, il décrira ceci: « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui auparavant n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Nous avons, nous, ici, eu le privilège de rencontrer certains membres de ce peuple. Nous en connaissons d'autres simplement de vue, sur des photos, d'autres de nom, et d'autres en plus grand nombre que nous n'avons jamais rencontré. Mais nous appartenons, si nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ, nous appartenons à ce peuple que le Seigneur aime. Il aime son peuple qui est composé de personnes de toute langue, de toute race, de toute tribu. Voilà ce que l'amour de Jésus a accompli. Il a révélé sa grâce, il a révélé le salut. Il est venu l'accomplir et il a réconcilié des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, de toute origine, de toute langue. Il les a réconciliés avec Dieu. Paul dira, par exemple, aux Colossiens 3:11, « Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. » Voilà un peu la largeur de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Il aime un peuple de toute langue, de toute nation, de toute tribu. Nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie d'une nation que personne ne peut dénombrer. Mais le deuxième point, c'est la longueur, sixième mot sur la feuille, la longueur de l'amour de Jésus-Christ. Cette mesure souligne la nature sans fin de l'amour de Jésus-Christ pour son peuple. Nous lisons Jérémie 31, verset 3, que l'Éternel dit ceci, « Je t'aime d'un amour éternel. » Est-ce que nous avons réfléchi à l'éternité de l'amour du Seigneur Jésus-Christ pour son peuple, pour nous? L'amour du Seigneur Jésus a commencé dans l'éternité, septième mot, a commencé dans l'éternité passée. Avant la création de ce monde, le Père, le Fils et l'Esprit sont entrés dans une alliance à propos du salut d'un peuple par le Seigneur Jésus-Christ. Tout était connu, même la chute de l'homme était connue. Et le Fils, qui est le représentant de cette nouvelle création, de cette nouvelle humanité, s'est engagé à sauver ce peuple, à se livrer lui-même pour sauver, pour racheter ce peuple. Et le Père s'est engagé à donner des bénédictions, des privilèges à ce peuple qui appartient au Fils. Et l'Esprit s'est engagé à appliquer ces choses dans les cœurs. Et lorsqu'on réalise, lorsqu'on médite sur ces réalités, lorsqu'on passe du temps à méditer sur ces choses, on voit que l'amour du Seigneur Jésus-Christ a commencé avant la création de ce monde, dans l'éternité passée. L'amour du Seigneur Jésus-Christ pour son peuple n'a pas commencé, n'est pas apparu comme cela, subitement. Non, il aime son peuple depuis toujours. Et nous verrons plus tard, dans le livre de l'Apocalypse, cette réalité, par exemple, en Apocalypse 13, verset 8, et qu'il parle, ici de ceux dont les noms n'ont pas été inscrits dans le livre de la vie, impliquant que les autres, ceux qui appartiennent à Christ, ont leur nom inscrit dans le livre de la vie depuis la fondation du monde, Apocalypse 13, verset 8, « Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé de la fondation du monde. » Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau vont adorer la bête. Nous verrons cela. Cela implique que ceux dont le nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau, avant la fondation du monde, sont ceux qui sont gardés, sont ceux qui sont aimés, qui sont l'objet de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Nous verrons cela même chapitre 18, verset 8. Mais est-ce que nous avons conscience de cela? Est-ce que nous avons conscience de cela? Si nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, nous pouvons affirmer que le Seigneur nous aime depuis toujours. Il nous aime, mais il n'aime pas seulement son peuple dans son ensemble. Il m'aime, moi, personnellement. Il m'aime depuis toujours. Et cela apporte une dignité à notre existence. Je suis aimé du Seigneur Jésus-Christ depuis toujours. Comment est-ce que cela se traduit maintenant, aujourd'hui? L'amour de Jésus-Christ a commencé dans l'éternité passée et elle va continuer, l'amour va continuer dans l'éternité à venir. Et donc aujourd'hui, nous allons pouvoir avoir cette certitude que son amour ne changera pas. L'amour de Jésus-Christ ne connaît pas de variation, neuvième mot sur la feuille. Il restera le même jour après jour. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. L'amour de Jésus, si on peut prendre une illustration, ce n'est pas une ligne discontinue. Ce n'est pas de temps en temps et puis il n'y a plus rien, puis de temps en temps et puis plus rien. Non, l'amour de Seigneur Jésus-Christ ne connaît pas d'interruption. C'est une ligne qui est continue, quoi qu'il arrive. L'amour du Seigneur Jésus-Christ demeure, il est constant. Il ne va pas s'arrêter pour reprendre et ensuite s'arrêter et reprendre. Son amour ne change pas, c'est une ligne droite, c'est une ligne continue. C'est un amour qui ne renonce pas, c'est un amour qui n'abandonne pas, un amour qui ne désespère pas de nous. Et une merveilleuse histoire de la longueur de cet amour de Jésus est la parabole du fils prodigue, dixième mot sur la feuille. Rappelez-vous de cette histoire, le plus jeune des fils est parti avec sa part d'héritage, il a laissé l'amour de son père, il est parti dans un pays lointain, il a tout dépensé. Mais pendant toute son absence, jusqu'à son retour, le père l'aimait et attendait et guettait. Il guettait son amour et au retour du fils, il a lui accordé toutes les bénédictions. Voilà une description de l'amour du Seigneur Jésus pour son peuple. C'est un amour qui est patient, c'est un amour qui est persévérant, c'est un amour qui nous supporte, un amour qui n'abandonne jamais. Et c'est une réelle bénédiction de réaliser que même si dans notre folie, nous tournons le dos à Jésus, ou nous ne l'écoutons pas, nous ne l'obéissons pas. Si nous sommes à lui, son amour est toujours là. C'est un amour qui ne nous lâchera pas. Dieu lui-même, dans Hébreux 13, verset 5, dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » La semaine dernière, je crois, nous avons chanté un cantique, qui est le cantique « Seigneur, à ton regard de flamme ». Mais cette mélodie en anglais accompagne d'autres paroles, un autre cantique. Et la première ligne de ce cantique dit « Oh love, that will not let me go. » Oh amour, qui ne me lâchera jamais. Voilà l'amour de Jésus pour les siens. Il est donc nécessaire, il est important que nous contemplions cet amour qui est trop grand pour vraiment le décrire, comme Paul l'a dit aux Éphésiens. Mais cela ne doit pas non plus nous arrêter à réfléchir, à méditer, à chercher à comprendre la grandeur de cet amour. Si on ne réfléchit pas, si on ne réalise pas la largeur, la longueur de cet amour. On peut penser parfois que Jésus nous a oubliés, qu'il nous a abandonnés. Quand les problèmes arrivent, quand les épreuves arrivent, quand on est face à des difficultés, à des déceptions, on peut être tenté de se poser la question, mais où est son amour ? La merveilleuse réponse de la parole de Dieu, c'est que le Seigneur Jésus aime son peuple depuis toujours. Et il l'aime aujourd'hui. Paul va exprimer cette réalité dans sa lettre aux Romains, ce passage bien connu, Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien, 12e mot sur la feuille, 12e mot sur la feuille, rien ne peut amener l'amour du Seigneur Jésus à changer à l'égard de son peuple. Quel réconfort, quelle consolation, quelle force cela peut-il nous donner dans les moments difficiles. Si le Seigneur Jésus-Christ nous a manifesté son amour, nous pouvons avoir cette assurance que son amour restera toujours avec nous. Rien ne peut nous retirer de sa main. Rien ne peut nous enlever, rien ne peut nous séparer de son amour. Même si les portes de l'enfer semblent être ouvertes, que tout semble aller contre nous, rien ne peut pousser le Seigneur Jésus-Christ à abandonner son peuple. C'est vrai aujourd'hui, c'est vrai demain, et cela est vrai pour l'éternité. Son amour a commencé dans l'éternité. Il se manifeste aujourd'hui dans le sens qu'il est tout constant, qu'il est le même. Et il continue, qu'un très très mot sur la feuille, il continue dans l'éternité. Cette ligne n'est pas cassée, elle ne se cassera pas. Dans la lettre aux Hébreux, l'auteur au chapitre 7, décrit cela d'une autre manière. Hébreux chapitre 7 et au verset 24 et 25, il dit « Mais lui, mais Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il sauve parfaitement. Rien ne sera achevé, ne sera laissé inachevé. Quoi qu'il arrive, l'amour de Jésus pour les siens continuera jusqu'à ce que le plan de salut soit entièrement, parfaitement accompli. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est assis à la droite du Père et il intercède pour les siens et il intercédera pour les siens jusqu'à la fin. Jusqu'à son retour. Il n'est pas, comme l'auteur de la lettre aux Hébreux le souligne, comme les sacrificateurs de l'Ancien Testament qui servaient pour un temps et qui ensuite mouraient et devaient être remplacés. Non, l'auteur aux Hébreux nous dit, non, Jésus règne, il vit éternellement. Il est toujours, 14e mot, il est toujours vivant. Et parce qu'il est toujours vivant, il est capable d'intercéder pour les siens jusqu'au bout. Jusqu'au bout, et il intercédera pour les siens, jusqu'au bout, jusqu'à son retour. Pourquoi ? Parce qu'il aime son peuple. Parce qu'il aime son peuple. Et il veut prendre, et il prendra son épouse avec lui. Voilà la longueur, voilà une faible description de la longueur de l'amour du Seigneur Jésus-Christ pour son peuple. Nous verrons la profondeur de son amour quand l'auteur parle qu'il nous a délivrés par son sang, qu'il s'est humilié jusqu'à la mort. Nous verrons la hauteur de son amour quand il fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous ne sommes pas seulement pardonnés, mais réconciliés avec Dieu, adopté dans sa famille et les objets, les bénéficiaires de toutes les bénédictions dans les cieux célestes. Mais comme les églises en Asie à qui Jean s'adresse et qui étaient sur le point de, de connaître des moments difficiles, il leur fallait réaliser, prendre conscience de cette réalité, que le Seigneur Jésus-Christ aime son peuple. Et il nous aime aujourd'hui si nous lui appartenons. Nous aussi, nous pouvons connaître des difficultés, être devant des questions. Qu'est-ce qui nous attend ? À la fois sur le plan personnel, sur le plan de l'Église. Qu'est-ce qu'il va devenir de nous ? Comme ces églises pouvaient se poser des questions en voyant la persécution arriver. Qu'est-ce qui va arriver ? Qu'est-ce qui va se passer ? Mais Jean veut que nous prenions le temps de réaliser que celui qui est assis à la droite du Père, celui à qui toute autorité a été donnée sur la terre et dans le ciel, celui qui est le prince des rois de ce monde, qui règne, qui dirige le cours de l'histoire, est aussi le Sauveur qui nous aime, 15e mot. Le Sauveur qui nous aime, pas seulement dans le passé, pas seulement dans ce moment où il a donné sa vie pour sauver son peuple. Bien sûr, c'est la grande manifestation de son amour. Mais aujourd'hui, il aime son peuple. Sommes-nous conscients de son amour pour nous aujourd'hui? Si nous pouvons répondre dans l'affirmative, alors nous pouvons savoir que ni la chair, ni le monde, ni même le diable lui-même, ni les épreuves ne pourront nous amener au désespoir. Nous pourrons dire avec l'apôtre Paul que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce n'est pas du fatalisme, c'est la confiance. Toute chose, oui, pourquoi ? Parce que le Seigneur Jésus-Christ m'aime. Ce sont des choses que nous devons faire face, auxquelles nous n'aurons pas pensé, auxquelles nous n'aurions même pas, surtout pas souhaité. Ce sont souvent des choses difficiles, mais nous pouvons avoir cette assurance que le Seigneur non seulement nous a aimés dans le passé, mais aujourd'hui, il nous aime. Il y a un cantique qui commence avec cette phrase, « Mon Sauveur m'aime, quel ferme appui pour ma foi. » Et c'est une merveilleuse réalité à laquelle il nous faut revenir, à laquelle l'Écriture et à laquelle Jean nous invite, et ce cantique nous invite à considérer. Oui, l'amour de Jésus-Christ s'est manifesté à la croix lorsqu'il s'est donné lui-même pour nous. Mais le Seigneur m'aime aujourd'hui. Et son amour est un amour qui est large, une largeur immense, mais qui est aussi d'une longueur infinie. Il m'aime depuis toujours, il m'aimera jusqu'à dans l'infini, mais il m'aime encore et surtout aujourd'hui. Que Dieu nous aide à saisir cette réalité, que nous soyons convaincus de cet amour présent du Seigneur Jésus-Christ pour les siens, et que nous puissions dire, comme ce cantique, à celui qui nous aime, soit la louange, soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.